Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 2 de l'ABC des médiations familiales sur CFM Rodez, une émission proposée en partenariat avec l'ADAVEM 12, l'ADAVEM de l'Aveyron, et avec moi dans les studios Lucia Vintila et Justine Lacombe. Bonjour mesdames.
Bonjour David.
Bonjour David.
Tout va bien ?
Oui, très bien.
Bon, on rappelle Justine et Lucia que vous êtes toutes les deux médiatrices diplômées d'État à la DAVEM de l'Aveyron, évidemment. Et pour cette deuxième émission de l'année 2024, nouvelle formule, hein, tu nous l'as annoncé la dernière fois, Lucia, je me souviens.
Tout à fait.
Donc, question-réponse.
Question-réponse, très courte et très pratique, très concrète.
Très bien, donc c'est moi qui fais les questions, c'est vous qui faites les réponses ou on fait le contraire? Non, on va faire.
On peut essayer,
ça me plaît.
Ça peut être rigolo.
Ça peut être rigolo, ouais, voilà. Bon, enfin, on va faire quand même les choses dans l'ordre pour apprendre des choses. Le mieux, c'est que ce soit moi qui pose des questions et vous y répondiez du mieux que vous pouvez. On va commencer avec toi, Lucia. Première question concrète. Je veux venir en médiation familiale, mais le père de mes enfants ne veut pas et ne comprend pas ma demande. Comment je peux le faire venir?
Bah
oui, je pourrais
rien.
Très bien avoir un compagnon qui est le père de mes enfants. Ce n'est pas le cas, mais je pourrais très bien. Mais comment je peux le faire venir si j'en avais un?
Vraiment, si la personne ne veut pas venir, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir en médiation.
Et
ça, on a parlé l'année dernière, et la première émission de cette année, on a dit que pour que la personne vienne en médiation, on doit avoir le consentement libre et éclairé de la personne.
Voilà, c'est le volontariat.
Après, c'est une que la personne qui fait la demande nous dise je veux venir en médiation, mais je suis sûre que l'autre personne, l'autre parent ne veut pas venir. Il faut qu'on vérifie cette affirmation et il faut questionner demander à la personne quels sont ses motifs.
D'accord. Et on peut essayer de la convaincre un petit peu
On peut la convaincre si tu veux, mais après on ne peut pas la forcer.
Parce que
la personne, peut-être qu'elle a des bons motifs, peut-être qu'elle n'est pas prête de venir maintenant en médiation, peut-être que le temps lui, ce n'est pas le moment. Et tu sais, on a parlé, ma collègue, elle a parlé la semaine, il y a 2 semaines, de deuil. Peut-être qu'ils sont dans des phases de deuil différentes. La première personne qui demande la médiation, elle a passé toutes les étapes de deuil, et l'autre, il n'est qu'au début. On dénie, on négociation, etc. Et il ne peut pas venir en médiation, il ne peut pas voir, il ne peut pas rester dans le même espace avec l'autre personne. Il n'est pas physiquement en France, par exemple. Il n'a pas vraiment du temps alloué à cet espace de médiation, parce qu'il faut avoir de temps, d'énergie, il faut vraiment être au travail, te mettre au travail pour que la médiation...
Participer.
Exactement. En général, le médiateur, ça dépend de la pratique de chaque médiateur. Ce sont des personnes de médiateurs qui s'arrêtent ici, ils ne questionnent pas l'autre personne, ils ne contactent pas l'autre personne, ils demandent seulement à la personne qui est demandeuse de médiation de lui donner les contacts de médiateur, et que c'est l'autre personne qui contacte le médiateur. Après, d'autres pratiques, vous prévenez la personne que c'est moi qui le contacte, et c'est le médiateur qui essaye de contacter la personne pour voir vraiment quelles sont les raisons.
Oui, il peut y en avoir de bonnes, tu l'as dit, de refuser une médiation. Autre question, je m'adresse à toi, Justine. Je veux voir mes petits-enfants, mais mes relations sont compliquées avec mon fils et ma belle-fille. Ils ne veulent pas que je les voie. Comment ça se passe ?
Oui, alors c'est des situations qui deviennent un peu plus fréquentes qu'avant, ou du moins elles sont un peu plus utilisées en médiation familiale. Donc dans ces cas-là, moi, comment je fonctionne ? Je reçois les grands-parents dans un premier temps pour leur expliquer déjà comment fonctionne la médiation familiale et voir avec eux la situation. Et je les invite du coup à inviter, dans ce cas-là précis de ta question, leur fils à venir en médiation familiale.
D'accord.
Ou leur fils appelle directement, ou si au bout d'un moment du coup ils ne contactent pas le service, moi je vais faire la démarche de les appeler puisqu'il aura été informé que je vais l'appeler.
Au bout de combien de temps tu te dis moi j'appelle?
Je laisse un délai d'une semaine, 15 jours à peu près. D'accord. Je laisse le temps vraiment à la personne de faire la démarche elle-même pour responsabiliser déjà les gens dans la démarche. Et après, donc du coup, voilà, moi je vais contacter le fils dans la situation que tu évoques, et je vais programmer un rendez-vous si son fils est favorable à la démarche avec aussi du coup la belle-fille, puisqu'ils sont parents.
Ouais.
Même si les parents sont séparés, Je vais recevoir dans tous les cas les deux les parents. Deux. Pas forcément ensemble, dans un premier temps, ça peut être individuellement en fonction de la relation, en fonction de où ils en sont, de leur communication, mais je vais recevoir dans tous les cas, au final, les quatre personnes, mais avec plusieurs petits entretiens. Du coup, d'abord les deux grands-parents, après, du coup, le fils dans la situation, avec la belle-fille s'ils sont encore ensemble, ou séparément s'ils ne sont pas ensemble, ou du moins s'ils ne s'entendent pas. Voilà. Et comme disait ma collègue, quand j'ai l'accord de tout le monde, si tout le monde est d'accord, après, à ce moment-là, je vais mettre en place une médiation familiale où on va vraiment aller creuser le pourquoi du comment, quelle est la problématique aujourd'hui et comment organiser à un moment donné ou pas les visites avec les petits-enfants si jamais, en effet, le fils et la belle-fille sont dans la démarche d'accepter à un moment donné que des liens continuent entre les grands-parents et les petits-enfants.
Et dans ces cas-là, le plus dur, c'est d'obtenir en fait l'accord de tout le monde. Une fois que tout le monde est d'accord pour la médiation, on peut arriver à un compromis, à un arrangement.
C'est ça, c'est plus difficile. Après, les entretiens individuels vont davantage se faire éventuellement. Moi, c'est vrai que j'ai eu une dernière situation où j'ai beaucoup travaillé avec les grands-parents d'un côté, beaucoup travaillé avec les parents de l'autre. Donc il y a vraiment un travail déjà par deux binômes, j'ai envie de dire, pour repositionner aussi chacun. Et dans ces cas-là, moi je travaille sur quel est l'intérêt pour les petits-enfants d'avoir des grands-parents, aux yeux des grands-parents, comment eux ils se positionnent par rapport à ça, et aux yeux des parents. Et comme ça, ça permet vraiment de revenir sur les valeurs aussi. Qu'est-ce que des grands-parents peuvent apporter aux petits-enfants. Essayer vraiment de travailler sur ça pour mettre ça en fait en valeur. Parce qu'en effet, les grands-parents ont le droit de voir leurs petits-enfants. Mais si les parents mettent un frein à ça, ils peuvent ne pas du coup voir leurs petits-enfants. Donc arriver à essayer au moins de recréer déjà un lien. Parce que le problème souvent, c'est la relation entre les grands-parents et leur fils ou la belle-fille. Donc c'est déjà essayer de recréer un lien entre eux avant d'en arriver vraiment finalement à la problématique qui les amène au départ. Donc des fois, il y a tout un travail en amont. Avec aussi une orientation possible vers des espaces thérapeutiques si les liens sont trop compliqués.
Merci Justine pour cette réponse. Autre question à Lucia cette fois. Nous n'arrivons plus à nous entendre avec mon compagnon ou ma compagne. Nous n'arrivons plus à communiquer. Est-ce que nous devons nous séparer? Moi j'ai envie de dire oui.
C'est que les personnes qui savent. On ne peut pas répondre à leur place. C'est clair. Oui, ton premier instinct, c'est de dire oui.
À un moment donné, oui.
Moi, mon instinct, c'est de dire j'en sais rien. C'est à eux à voir. Ça, c'est une médiation qui est un petit peu particulière parce que ce n'est pas une séparation, ce n'est pas un classique qu'on a le plus souvent. Pour moi, c'est plutôt une médiation de couple.
Oui.
Donc les personnes sont encore ensemble, mais il y a des divergences entre eux, de poids, de désaccords, etc. Ils n'arrivent pas à communiquer comme ils t'ont dit. Il faut voir qu'est-ce que ça signifie. Je n'arrive pas à communiquer. D'accord. Et si on part sur une médiation de couple ou prise de décision, on aide à la prise de décision, ça sera une médiation beaucoup plus courte comme processus. C'est pas deux à six séances. En général, c'est deux, trois séances, deux, trois rendez-vous. Donc, évidemment, c'est classique, entretien d'information qui peut se faire en commun. Comme le couple il est encore ensemble, on peut faire en commun ou en individuel, ça on laisse à l'appréciation de chaque personne. Et après, en première séance, on peut faire la ligne de vie du couple. On peut les questionner tous les moments positifs, tous les moments, quelques moments importants, positifs de leur vie pour pouvoir se rappeler pourquoi ils sont ensemble exactement. Pour donner un format positif à cette séance de médiation. Et on va voir comment ils ont fait avant d'arriver ici. D'accord. Donc, on va marcher beaucoup comment. Pas
qu'est-ce
vraiment pourquoi
passé,
c'est arrivé ici, mais comment ça se passait, comment vous arrivez ici, comment vous avez fait avant d'arriver ici. Qu'est-ce que ça marchait avant et qu'est-ce que ça ne marche maintenant, pourquoi, etc.
D'accord. Autre question, tiens, avant notre pause musicale dans l'ABC des médiations familiales sur CFM Rhodes. Autre question toujours à toi, Lucia. Nous sommes en résidence alternée, mais les enfants veulent vivre chez leur père, mais je n'y suis pas favorable. Comment pouvons-nous faire? Faut vous appeler. Faut vous rencontrer.
c'est ça.
Trouver un arrangement.
Ça. Et après, on va voir. Ce sont des médiations qui sont des cas qui peuvent être possibles.
Ah bah, oui, médiation. J'imagine. Oui,
après,
oui.
Sont des cas qu'on ne peut pas les prendre ou les conditions de la médiation ne se réunissent pas.
Ouais.
Donc, ça dépend. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est le « je ne suis pas favorable ». Tu vois, la personne, elle pense plutôt à elle-même, pas à l'intérêt d'enfant. Donc, si la personne
d'accord.
vient en médiation,
ouais.
nous, on reste dans notre neutralité le plus
possible. Professionnel.
Et impartialité. Moi, je crois plutôt en pluripartialité, c'est-à-dire qu'à la fois, on est avec un parent
et à la fois avec l'autre
pour équivaler la balance. Mm-hmm. Mais on est tout le temps dans l'intérêt d'enfant aussi. On va voir quel est l'intérêt d'enfant et on va questionner les parents, pourquoi ou comment ils ont fonctionné, pourquoi la résidence alternée, elle estime que ça ne marche pas, ou c'est le blocage. Jusqu'à maintenant, elle a fonctionné. Quels sont les motifs? Peut-être que l'autre parent, on ne sait pas. On n'a pas de détails,
mais
peut-être c'est la distance, peut-être c'est une maladie. Peut-être que c'est une rupture de lien. On va voir. Donc, on va voir qu'est-ce que ça bloque de tous les deux côtés. Quels sont les besoins des parents, évidemment, mais quels sont les besoins des enfants.
Et oui.
Et on va voir aussi l'âge d'enfant. Donc, on va essayer d'avoir plus des éléments pour... et on accompagne les parents. Sont eux, en effet, qui vont trouver les solutions qui ça leur convient. Parce qu'au moment de rendez-vous, peut-être ils disent « Oui, je ne suis pas favorable, ça ne me convient pas maintenant. » Mais après, au fur et à mesure que la médiation avance,
ils changent
les idées.
Allez, on va se retrouver dans quelques minutes pour d'autres questions et surtout d'autres réponses autour de la médiation familiale, des cas particuliers, des cas concrets avec Lucia Ventila, Justine Lacombe, médiatrice diplômée d'État à la DAVEM de l'Aveyron. La musique, c'est Lucia?
C'est moi, parce que c'est mon petit moment de détente.
Écoute, c'est bien, oui.
J'écoute les chansons. Oui, aujourd'hui, ça sera John Bon Jovi avec Always.
Toujours sur CFM Rhodes.
See his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Something made us laugh, something made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always.
CFM Rhodes, l'ABC de la médiation familiale, deuxième partie de ce rendez-vous avec la DAVEM de l'Aveyron, toutes les deux semaines, sur votre radio préférée, CFM Rhodes évidemment. Et pour cette deuxième émission de l'année, on s'intéresse à des cas pratiques, des cas concrets avec des questions-réponses. Lucia Vintila et Justine Lacombe, médiatrices diplômées d'État à la DAVEM de l'Aveyron, sont là pour nous donner les réponses. Alors Justine, je m'adresse à toi pour la prochaine question.
Oui.
Mon adolescent ne veut plus voir son père et n'y va plus. Son père dit que c'est moi qui l'empêche d'y aller. Comment je peux lui faire comprendre que c'est son fils qui ne souhaite plus y aller ? Ah ouais, c'est vrai que c'est les micmacs de famille ça.
Alors, ça devient des situations de plus en plus typiques. Ah ouais, enfin, ouais. On a de plus en plus en médiation familiale. Donc là, comme la plupart des situations, on va recevoir individuellement déjà chaque parent. Mm-hmm. Alors, le parent qui est demandeur déjà à la base, c'est finalement très souvent, enfin, moi, dans ce que j'ai pu remarquer, c'est le parent qui est porteur en fait, de la demande de l'enfant. Donc, c'est le parent qui est concerné par le fait que l'enfant veut rester chez lui.
Ouais.
Donc dans ce cas-là de ta situation, c'est la mère. Ouais. Voilà, c'est de manière générale, c'est souvent ça. Après, mm-hmm. c'est pas forcément une généralité, mais moi dans toutes les situations que j'ai eues, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que l'adolescent se confie à un des deux parents. Mm-hmm. Donc dans ta question là, se confie à la mère, mm-hmm. ne souhaite plus aller chez le père, et donc c'est la mère qui va être demandeuse de la médiation familiale pour à un moment donné essayer de débloquer la situation. Mm-hmm. Alors, du coup, moi, là, je vais recevoir la mère, dans ce cas-là. Je vais inviter la mère à inviter le père à venir en médiation, comme d'habitude. Hein, c'est la même démarche que d'habitude, de responsabiliser les gens. Si le père ne fait pas la démarche de lui-même, au bout d'un moment, du coup, je contacte le père, qui a été prévenu, dans tous les cas, qu'il aura un appel de ma part. Et j'essaie de voir si lui, il est favorable ou pas de venir en médiation familiale. Mm-hmm. Comme d'habitude, je fais deux entretiens individuels où j'explique le contexte, je vois la situation avec eux, et j'essaie de voir s'ils sont volontaires ou pas dans la démarche. S'ils sont volontaires dans la démarche, après, le but, c'est de mettre en place la médiation familiale avec les parents pour essayer, déjà dans un premier temps, de voir ce qu'il en est concrètement dans la situation et qu'ils essaient de voir comment ils se positionnent un petit peu par rapport à la demande de l'enfant.
Par rapport à l'enfant.
Voilà. Mmh. Donc ça, c'est déjà un premier contexte. Après, en fonction de l'âge de l'enfant, on peut faire intervenir l'enfant si, encore une fois, les deux parents sont d'accord et si l'enfant est d'accord de venir en médiation familiale. Mmh. Dans ces cas-là, l'enfant vient. C'est pas lui qui va décider de ce qui va se passer.
Il peut donner son avis.
Voilà, il va donner son avis. Nous, en tant que médiateur, on va être là pour entendre son avis, pour écouter ce qu'il a à dire. Ça lui permet d'avoir un espace, finalement, où il va pouvoir s'exprimer. Et après, à réfléchir de qu'est-ce qui va être fait de cette parole-là. Ça sera le rôle des parents, plus tard, d'en décider, en fait. Donc là, on reçoit l'adolescent, si c'est un adolescent. Si c'est un enfant trop petit, on ne le fait pas. Mais si donc, c'est un adolescent, on le reçoit seul. Voilà. Et on vérifie avec lui qu'est-ce qu'il a envie de dire à son parent.
Ouais.
Est-ce que c'est lui qui le dit ? Est-ce que c'est le médiateur qui le dit ? En fonction de ce qu'il est capable ou pas de faire dans la situation.
Ouais.
Et après, on reçoit le parent concerné. Donc là, le papa, en l'occurrence, dans ton exemple, seul, pour préparer en fait, l'entretien de la rencontre entre le père et le fils. Voilà, donc là, on prépare, en fait, chacun prépare l'entretien individuel, le fils, le père. Quand moi, je reçois le père, c'est pas pour lui dire ce que le fils m'a dit, en fait. C'est pour le préparer à qu'est-ce que lui, il a envie de dire à son fils, qu'est-ce qui est important. C'est un moment qui est fort où il va pouvoir justement dire ce qu'il a besoin de dire en tant que père pour essayer de recréer du lien aussi et à un moment donné, essayer de trouver une solution à cette situation qui est bloquée. Et réfléchir, donc chacun, je réfléchis avec chacun à quelles propositions ils ont envie de faire pour qu'un lien soit maintenu, mais peut-être pas dans l'organisation qu'il avait déjà, qui ne lui correspondait pas. Et donc, après, il y a un entretien avec le père et le fils, dans ta situation, je crois que c'est un fils, voilà, entre le père et le fils, pour justement échanger sur la situation et dire ce qu'ils ont besoin de se dire qui a été travaillé dans les entretiens individuels. Alors, ou le fils le fait de lui-même parce qu'il s'en sent la capacité, ou c'est moi qui le fais à la place du fils, en sa présence. Ou pas en sa présence si c'est trop compliqué pour le fils. En fait, on construit vraiment en fonction de ce qui est possible pour chacun. Et après, donc, où ils arrivent à trouver un accord par rapport à ce qui a pu être discuté l'un et l'autre par rapport aux propositions, où il n'y a pas d'accord, qu'importe.
Ouais.
Et après, normalement, il y a un autre entretien dans l'idéal avec les deux parents ensemble. Et ça permet de savoir quelles décisions ils prennent de la parole de l'enfant et par rapport à la situation. Voilà, ça, j'ai envie de dire, c'est le processus idéal. Mmh. Après, on l'adapte vraiment en fonction des possibilités de chacun et de ce que chacun a envie d'en faire ou de ne pas en faire. Voilà. Après, c'est vrai que c'est des situations très compliquées.
Ah,
nous,
ouais,
on a aussi un regard qui est avec ce qu'on est, hein, en tant que professionnel, avec l'expérience, avec la pratique, avec les bases qu'on a. d'essayer de voir aussi si c'est vraiment la demande de l'enfant.
Ouais.
Parce et que oui, y a le problème aussi, c'est que quand il y a le conflit des parents, il y a aussi des jeux qui se jouent inconscients en fait entre les parents, qui font que oui, peut-être que la mère en fait, elle va faire la demande parce qu'elle veut que la situation se débloque, mais peut-être qu'au fond d'elle, inconsciemment, ça l'arrange bien que la situation soit comme ça. Je dis la mère parce que là c'est l'exemple de la mère, hein, ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, ça peut être aussi avec un père. Donc il y a aussi nous à un moment donné ce rôle de vigilance, d'aller essayer de voir. Et c'est les entretiens individuels qui nous permettent aussi ça, et l'entretien commun de parents, d'essayer de voir en fait qu'est-ce qui se joue concrètement. Et est-ce que l'enfant, c'est vraiment la parole de l'enfant, ou est-ce que c'est une parole reportée, ou tout simplement un enfant qui, par loyauté aussi, inconsciente, va faire un choix et va mettre du coup un peu à mal aussi toute cette organisation.
Voilà. Et ouais, c'est pas toujours être évident votre boulot, c'est dans la finesse.
C'est
dans
ça.
L'évaluation. Autre question, autre situation, toujours Justine. Mon père de 82 ans ne peut plus vivre autant en autonomie qu'avant. Nous ne sommes pas d'accord avec mes frères et sœurs. Certains demandent le placement en maison de retraite, d'autres souhaitent le laisser à domicile. Comment faire ? Et là, ouais, on est aussi dans une situation, j'imagine, de plus en plus courante.
Aussi. De plus en plus courantes, mais elles sont compliquées en médiation familiale parce que là, on est dans des situations où l'affectif est très présent parce que c'est des situations où il y a des années entières de vie commune et d'histoire. Donc, c'est beaucoup plus chargé qu'un couple qui peut avoir 5, 6, 10 ans de vie commune. Là, des fois, ça relève à 50, 60 ans de vie partagée, entre guillemets. Donc, c'est pas du tout la même charge affective et émotionnelle dans ces médiations. Donc, elles sont plus compliquées à mettre en place. Là, toujours pareil, hein, le même principe. On reçoit chaque personne individuellement pour expliquer la médiation familiale, voir leur positionnement, leur situation et où c'est qu'ils en sont, eux, dans leur démarche. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord? Comment ils se positionnent par rapport à tout ça? Donc, la démarche, elle reste la même qu'à chaque fois, puisque ça reste la propre volonté de chacun de s'engager ou pas dans la médiation. Si on arrive à avoir l'ensemble de la fratrie, ce qui est l'idéal, ouais, c'est pas toujours facile, et en fonction du nombre de dans la fratrie aussi, parce qu'avant c'était des grandes fratries.
Quand t'as une famille de 12, oui, donc, c'est dur d'avoir tout le monde.
Avant, voilà, il y a eu des fratries, enfin, moi j'ai fait des médiations où ils sont 8, 9, il faut arriver à rassembler quand même tout le monde. Donc où on arrive à rassembler tout le monde est d'accord, et j'ai envie de dire c'est déjà l'idéal pour commencer. Et à ce moment-là, on met tout le monde autour de la table, et on essaie vraiment d'aller voir comment chacun se positionne, quels sont les blocages, pourquoi à un moment donné il y en a un qui préfère la maison de retraite et l'autre le placement à domicile. Et on essaie un petit peu de débloquer la situation avec les éléments en fait qu'on a. Et on travaille vraiment sur les différentes possibilités qu'il y a. Peut-être qu'il y a des freins qui à un moment donné bloquent une personne d'aller dans un sens et dans un autre. Je ne sais pas, quelqu'un qui n'est peut-être pas disponible a peut-être préférer la maison de retraite pour justement ne pas avoir à s'investir à domicile. Voilà, donc c'est un petit peu essayer d'aller comprendre les positionnements de chacun pour amener à un moment donné à trouver une solution la plus convenable possible dans la situation.
Bon, allez, dernière question pour cette émission de l'ABC de la médiation familiale sur CFM Rhodes. À toi, Lucia, ces dernières questions, si tu veux bien.
D'accord.
Le papa de mon enfant veut demander de partager les vacances d'été par mois. Est-ce qu'il a le droit? Que dois-je faire? Ah bah, il peut toujours demander. Hein.
Il peut demander, évidemment. Voilà. Et c'est une médiation classique. Ouais. C'est un sujet qui revient souvent en médiation.
À chaque
résidence
vacances.
D'enfants, ça c'est clair, c'est très abordé. On commence le processus avec les deux entretiens individuels, d'accord. Je ne reviens pas, je ne reste pas beaucoup ici. Après qu'on a l'accord, le consentement de personnes, de parents, on met en place la médiation et je commence à le dire et je le dis en effet on entretient une information déjà que les deux parents, maman et papa, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations envers les enfants que malgré la séparation, ils ont l'autorité parentale qui reste
les
conjoint. Exactement. Parce qu'après la séparation, ils disent ben, j'ai la garde exclusive. Ça n'existe pas la garde exclusive parce que ce terme il était remplacé. Donc la résidence, la garde c'est la résidence, exclusive c'est habituel, j'en parle.
D'accord.
Pour ne donner pas le pouvoir à un seul parent. Parce qu'on part de la principe, de la base que tous les deux parents sont égaux devant la loi, ils ont les mêmes droits et obligations. Après, pour revenir à ta question, après qu'on mette en place la médiation, mais on doit questionner, on doit voir quel est l'âge d'enfant. On va partir aussi de l'âge d'enfant et quels sont ses besoins. Parce que c'est différent, une résidence alternée d'un mois, au mois de juillet, par exemple, chez maman et août chez papa, quand l'enfant il a 2 ans, ou voire plus petite, ça dépend, et quand l'enfant il a 14, 15, 16 ans. Déjà à 14, 15, 16 ans, il a le consentement, le discernement devant la loi. La loi prévoit 7-8 ans que la personne, l'enfant peut avoir discernement, donc peut réfléchir pour lui-même, peut être entendu par la justice, mais ça ne signifie pas que c'est l'enfant qui décide.
Oui,
on est bien d'accord. Après, on va questionner quels sont les motifs pour lesquels les parents veulent s'organiser un mois et pas une semaine, ou 15 jours et 15 jours. Ouais. Peut-être c'est la géographie. Peut-être un parent habite en France et l'autre habite à l'étranger. Alors, c'est plus logique pour eux de mettre en place ça. Donc, en tout cas, indifférent des motifs, on doit accompagner les parents pour prendre les meilleures solutions, les solutions qui ça le convient à tous les deux, sans que nous, on intervient. On n'a pas de projet pour eux, on ne va pas intervenir. Après, on va voir pour l'enfant, qu'est-ce que ça représente aussi un mois.
Ouais, qu'est-ce que
si
ça a comme conséquence.
C'est beaucoup, exactement, comme je disais, c'est en fonction aussi cette période de l'âge. Qu'est-ce que ça représente un mois pour chaque parent aussi, ça c'est important. Comment on peut mettre en place ça pour faciliter la vie de tout le monde. Il faut réfléchir à tout ça. Peut-être que si ils sont désaccord, moi comme médiateur je ne me mets pas contre leur volonté. Mais on peut mettre en place des outils ou quelque chose qui le facilite, cette mois d'absence. Peut-être il peut discuter, il peut tomber d'accord une fois par semaine, mercredi soir à 18h, je te donne un exemple comme ça. On fait une heure de visio, on envoie de messages.
Okay.
Donc on doit réfléchir à tout ça. C'est à réfléchir comment les parents ils vont gérer 7 mois, parce que si l'enfant il est petit, ça peut être des crises, il peut avoir des crises en fonction de l'âge, de poussée de grandissement, etc. Qui va gérer toutes ces crises, comment ça va gérer. Peut-être qu'ils mettent en place une garderie, combien ça coûte. Les grands-parents, est-ce qu'ils sont impliqués en toute cette mode de résidence. Un mois, pour certains, ça peut être beaucoup ou ça peut être pas suffisant. Ça dépend de parents et de le lien qui existe entre les parents et les enfants. Mais en tout cas, sont aux parents de trouver leur propre solution qui leur convient mieux pour eux et pour l'enfant. Et s'ils n'arrivent pas à trouver une solution qui leur convient, mais ça leur reste tout le temps la voie juridique. Ça sera le juge qui tranche pour eux-mêmes et qui va trancher en intérêt d'enfant. Mais c'est à souligner que peut-être un... ou peut-être tous les deux, ils ne sont pas très heureuses de ce que la loi dit. On invite les personnes de venir en médiation et de trouver leur propre solution.
Non, mais la justice, c'est très bien, mais il vaut mieux éviter
elle est très bien,
le plus possible. Quoi,
mais inclusivement, le juge, après qu'il rende son jugement, il donne ce pouvoir à personne à trouver les solutions qui lui convient mieux, parce que la loi, elle est faite pour général. Mais chaque personne qui vient au tribunal, c'est un cas particulier. D'accord. Et le juge ne peut pas, il n'a pas de temps, il ne peut pas savoir tous les détails de la famille, mais à la fin de chaque jugement en général, il y a une phrase qui donne ce pouvoir aux personnes de trouver leur propre meilleure solution en dehors du jugement.
Elle-même.
Sauf meilleur accord. Et c'est exactement ça que ça signifie. Si tu as trouvé un meilleur accord en dehors de mon jugement, ben moi comme juge, je ne me mets pas contre la volonté. Évidemment, si c'est conforme à la loi et à l'intérêt d'enfant. On doit respecter tout ça.
Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lucia, pour cette dernière réponse aux questions que je vous ai posées aujourd'hui dans l'ABC des médiations familiales sur CFM Rhodes. On se retrouve dans 2 semaines.
En 2 semaines.
Pour une nouvelle émission, évidemment, avec Justine et toi, Lucia. On va poursuivre sur du question-réponse. Il y aura des invités, des surprises.
C'est possible, on va voir.
Bon, et en tout cas, on va se quitter en musique.
Évidemment, comme d'habitude.
Aujourd'hui, comme d'habitude.
Et pour cette fin d'émission, j'ai choisi U2, Beautiful Day.
Ah ouais, très bien. Beautiful Day. Beautiful Day à toi, Justine.
Merci.
Beautiful David. Day à toi, Lucia.
Thank you very much, David.
Et à dans deux semaines sur CFM Rodez.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. At first light.